Bonjour à tout le monde. Monsieur John Ogwin, vous vous rappelez, un serviteur fidèle de Dieu dans l'Église pendant de nombreuses années, qui est déjà mort d'ailleurs depuis quelques années aussi, a écrit de nombreux articles. Et il y a un article en particulier qui a impressionné des membres de l'Église qui m'en ont parlé dernièrement et qui m'ont demandé si je ne pouvais pas bâtir un sermon avec ce thème-là et peut-être élaborer un peu plus. L'article en question de M. Ogwin, qu'on peut retrouver sur le site Internet, a pour titre « Les écrits de Jean, leur raison d'être et leur but ». Les écrits de Jean, leur raison d'être et leur but. Et aujourd'hui, je vais donner cette explication-là et je vais élaborer un peu plus, mais pas au complet comme M. Ogwin a fait, pas sur l'ensemble des écrits de Jean, mais sur l'Évangile de Jean. Alors, le titre du sermon aujourd'hui, l'Évangile de Jean. Vous savez, c'est le premier document que l'apôtre Jean a écrit. C'est son Évangile. Les années suivantes, il a rédigé ce qu'on appelle les trois petits épîtres de Jean. Un épître, c'est une lettre. C'est beaucoup plus court que son évangile. Il a écrit ces trois épîtres-là par la suite. Et plus tard, une fois qu'il a été exilé sur l'île de Patmos, c'est là qu'on voit que l'apôtre Jean a écrit le fameux livre de l'Apocalypse. Et c'est dans les années 90 de notre ère que ça a été écrit. Je vous situe un peu dans le temps parce que ça va vous aider à voir le contexte également. Rappelez-vous que le Christ est mort en l'an 31 de notre ère. OK, en l'an 31 de notre ère. L'apôtre Jean a écrit l'Apocalypse dans les années 90. Alors, on parle déjà d'une 60 années de différence dans le temps. Et parmi les 12 apôtres originaux, Jean est mort le dernier. Il était très, très, très âgé. Et Jean est mort le dernier parmi les apôtres originaux. Et vous avez sans doute déjà remarqué que son évangile est très différent de l'évangile des trois autres évangélistes. Les trois autres, bon, c'est Matthieu, Marc et Luc. Matthieu, Marc et Luc. Et quand vous comparez ce qu'eux ont écrit avec l'évangile de Jean, c'est pas la même chose. On voit que l'approche est différente. Il traite de différents sujets. Il y a des raisons pour ça. Et on va les voir à mesure qu'on va avancer dans le message aujourd'hui. D'ailleurs, ces trois évangiles-là, Marc, Matthieu et Luc, on les appelle les évangiles synoptiques. Vous vous rappelez de ce mot-là, sans doute, les évangiles synoptiques. Ça veut dire que ces trois écrits-là suivent un peu le même schéma. Ils réfèrent un peu aux mêmes choses, puis ils décrivent à peu près les mêmes événements de façon générale. Alors, ils sont synoptiques parce qu'ils sont semblables les uns aux autres, ces trois-là. Alors que l'évangile de Jean ne fait pas partie des évangiles synoptiques. Parce que Jean ne parle pas, lui, de la généalogie de Jésus, par exemple, ce qu'on voit dans les autres. L'apôtre Jean ne parle pas de la naissance de Jésus. Je précise des choses. Il ne parle pas de son baptême. Il ne parle pas non plus de la tentation au désert, ce que les autres décrivent. Voyez-vous? Il ne parle pas non plus de la transfiguration, ni de l'institution de la Pâque. Il ne parle pas de son agonie ou de son ascension, et il ne parle pas de ses paraboles. C'est surprenant. Tout ça, on retrouve ça dans les trois autres évangélistes. Dieu a complété, en inspirant l'apôtre Jean, de parler d'une façon différente, parce que le contexte était changé, et il y avait d'autres besoins, et le fondement, d'autre côté, avait été fait, en ce qui concerne les autres aspects que je viens de vous mentionner. Maintenant, avant d'aller plus loin, je voudrais juste préciser, c'était qui Jean? C'est intéressant de savoir c'était qui ce personnage-là au juste. Allez dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. On va bien définir notre personnage. Je dis personnage parce que ça veut dire quelqu'un d'important. Et dans la Bible, c'est quelqu'un d'important aussi. Qui a laissé un volumineux témoignage, un héritage formidable inspiré par Dieu pour nous aider. Alors, Matthieu 4, ici, vous avez la description du moment où le Christ a appelé les premiers disciples. ses premiers disciples. Alors, Matthieu 4 et le verset 21. Matthieu 4, verset 21. De là, étant allé plus loin, il parle du Christ, il, Jésus-Christ, vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée. Et on voit après ça que quand le Christ les a appelés, leur a demandé de le suivre, ils l'ont fait. Alors, on voit ici qu'il y avait Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Donc, il y avait deux frères ici qui ont été appelés en même temps. Alors, Jean était le fils de Zébédée. Maintenant, c'est qui sa mère? Marc 15. Marc, chapitre 15. Vous allez voir pourquoi je mentionne ça. Marc, chapitre 15 et le verset 40. Ça décrit ici ce qui s'est produit au pied de la croix à la mort du Christ. Marc 15 et le verset 40. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur et de Jose, et Salomé, qui le suivait et servait lorsqu'il était en Galilée et tout ça. Salomé. Salomé, c'est la mère de Jean. OK? Je vois quelqu'un qui me fait signe que oui, qui a déjà fait la recherche probablement. Alors, Salomé était la mère de Jean. Maintenant, on va aller plus loin que ça. Allez à Matthieu 27. Matthieu 27. Matthieu décrit la même chose, la mort du Christ, et ce qui s'est passé au pied de la croix. On voit qui était là aussi, et là, on peut faire les liens. Matthieu, chapitre 27, et le verset 55 et 56. « Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. » Un peu comme on vient de voir dans l'autre contexte, dans l'autre passage, verset 56. « Parmi elles était Marie de Magdala, on vient de voir, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. » Qui était la mère des fils de Zébédée? C'est Madame Zébédée, c'est la femme de Zébédée, donc c'est la mère de Jean. OK? Alors là, on peut faire les liens en question. Maintenant, on va aller plus loin. Jean 19. Jean 19. C'est un peu comme un casse-tête ou un puzzle qu'on fait. On va chercher les morceaux ici et là, on les met ensemble. Jean 19 et le verset 25. Jean 19, verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère. Et la sœur de sa mère. On vient de voir, c'était Salomé. OK? Alors, Salomé était la sœur de Marie, la mère du Christ. C'est intéressant qu'on fasse cette généalogie-là un peu pour situer l'homme, c'est qui? Qui est Jean? Alors, Salomé était la sœur de Marie qui était la mère du Christ. Donc, ça nous donne lieu de croire que l'apôtre Jean était le cousin propre de Jésus-Christ. Ben oui, les deux mères étaient les deux sœurs. Salomé et la mère de Jésus-Christ étaient les deux sœurs. Donc, leurs enfants sont cousins propres. Alors, Jésus, le fils de Marie, était cousin de Jean, qui est devenu l'apôtre Jean, le fils de Salomé et de Zébédée. OK, ça situe ça. Et ça implique en même temps, parce que c'est le fun de voir le contexte, c'est intéressant, que Jean a grandi en même temps que le Christ a grandi. Et comme ils étaient de la même famille et qu'ils étaient dans la même région, ils ont sans doute joué ensemble, ils se connaissaient probablement depuis longtemps. OK? Alors, c'était pas nouveau pour Jean de connaître le Christ, sauf qu'il l'a connu à un moment donné sous un autre aspect, lorsque Dieu l'a appelé et lui a donné de comprendre que son cousin, ce n'était pas simplement un être humain, là, qu'il y avait quelque chose de plus. Bon, maintenant, on va plus loin. Jean avait aussi un lien de parenté, sans doute, avec Jean-Baptiste. Oui, 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 parce que, écoutez, parce que la mère de Jean-Baptiste, c'était qui? C'était Élisabeth. Vous pourrez aller voir dans Luc 1, verset 36, quand l'ange a annoncé à Marie qu'elle allait avoir un enfant et tout ça. Luc 1, verset 36, je peux aller en passant. Luc 1, verset 36, pour être certain de bien de vous citer le bon verset. Luc 1, verset 36, c'est ça. Alors l'ange dit ici à Marie, « Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, elle qui était stérile, et ainsi de suite. Alors, on voit que la cousine de Marie, que sa parente, on ne définit pas le lien de parenté, ça je ne l'ai pas trouvé, mais c'est une parente. J'imagine que ce n'était pas une parente et très très éloignée non plus. Alors, Élisabeth a donné naissance à qui? À Jean-Baptiste, qui a prêché dans le désert et qui a annoncé la venue de Christ. Alors, l'apôtre Jean était sans doute un petit parent. Il y avait un lien de parenté aussi avec Jean-Baptiste. Alors, on voit qu'il y a des liens de famille là, dans ce petit noyau-là, là, qui ont commencé à prêcher l'Évangile avec le Christ. C'est intéressant de voir. Maintenant, allez dans Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Là, on va voir quel genre d'homme était Jacques. Je ne veux pas développer beaucoup là-dessus, vous le savez déjà, mais c'est bon qu'on voit qui il était, quel genre d'homme. Marc 3 et le verset 13 à 17. Parle du Christ ici. Il monta ensuite sur la montagne, et il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Donc, le choix de ces 12 apôtres originaux. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre. Jacques, fils de Zébédée. Et Jean, son frère, frère de Jacques. OK? Auquel il donna le nom de Boanerges. Et vous savez ce que ça veut dire, Boanerges? Si vous avez une note en bas de votre Bible, ça veut dire fils du tonnerre. Ça veut dire que ces deux garçons-là n'étaient pas reposants. Ça veut dire que c'était des gens plus que dynamiques, là. Et même, on voit dans le contexte certains faits qui sont relatés que Jean était plutôt impulsif et même violent. Alors, ça, c'est avant qu'il soit converti, là. Alors, c'est pas pour rien que le Christ dit, il les a appelés les fils du tonnerre, ces deux-là. Et on voit un exemple de ça. Il y a plus qu'un exemple, mais allez dans Luc 9. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Ça va vous rappeler un passage qu'on se rappelle parfois entre nous en badinant. Luc 9, verset 54. Et ici, c'est le contexte où Jean avait été demandé avec un autre disciple d'aller dans une des villes de Samarie pour préparer le chemin pour la visite de Christ. Puis les gens de cette ville-là n'avaient pas voulu le recevoir. Parce que sachant qu'il allait à Jérusalem, il n'était pas pour ça. Alors ici, on voit verset 54, les disciples, Jacques et Jean, nos deux frères, les fils du tonnerre, là, ils étaient allés pour préparer les lieux. Voyant cela, qu'ils avaient été refusés, dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Alors ils ont fait le rapport au Christ. Ils savaient que le Christ était puissant. Il avait fait des miracles. Alors, il dit, écoute, veux-tu qu'on règle leur cas, là? Alors, voyez-vous, ils partaient de loin. Là, on parle de conversion, là. C'est-à-dire de partir de gens qui pensent comme des êtres humains mauvais, avec un cœur mauvais, violent, tout ce que vous voulez. C'était ça à l'époque, là. Mais Dieu appelle les choses faibles et folles du monde avec les traits de caractère qu'on a quand il nous appelle. Mais lui, il n'est pas découragé par ça. Il nous change avec le temps. Et c'est ce qu'il a fait avec l'apôtre Jean. Parce qu'à la fin de sa vie, c'est plus du tout le même homme. Hein? On le voit décrit comme quelqu'un de doux, de patient. C'est lui qui dit, mes petits-enfants, faites attention à quelque chose, je vous encourage à faire. C'est plus l'homme bouillant, là, impulsif, absolument pas. C'est le vieillard qui a acquis la sagesse de Dieu et la patience de Dieu. Et même à 5 reprises, c'est écrit dans les textes, en parlant de Jean, que c'était le disciple que le Christ aimait. C'est intéressant de mettre ça ensemble. Parce que quand on voit la transformation qui a eu lieu dans sa vie à lui, on comprend aussi pourquoi le Christ l'aimait également. Il a accepté de changer et il a changé avec la force de Dieu. Le tempérament prompt et violent qu'il avait au début, il l'a contrôlé par la suite. Et pour nous autres, c'est un bel exemple de changement total là, de quelqu'un qui partait de loin. Là. Et on n'a pas ça comme image. À prime abord de l'apôtre Jean, quand on lit ses textes, mais quand on voit qui il était, quand on fait une recherche, on se rend compte de qui il était au début et qu'est-ce qu'il est devenu. Bon, maintenant, je reviens à mon thème, je reviens à mon sujet. Pourquoi est-ce que l'évangile de Jean est différent des trois autres, qu'on appelle les évangiles synoptiques? D'abord, laissez-moi vous juste donner le contexte. Les trois autres évangiles ont été écrits autour des années 50-60. OK? Je vous rappelle, le Christ était mort en 31. L'apôtre Paul est décédé vers l'année 66, OK? Vers l'année 66 de notre ère, comme on voit dans les recherches qui sont faites. Le temple à Jérusalem, lui, et la ville avait été détruite en 70. Alors, le Christ est mort en 31. En 66, l'apôtre Paul décède. Dans les années 50-60, les autres écrits des évangélistes sont faits. En 70, le temple est détruit. Et l'évangile de Jean est écrit dans les années 90. Alors, pour bien nous situer encore, ça, c'est plus de 60 ans après la mort du Christ et plus de 20 ans après la destruction du temple. Alors, on est déjà rendu loin dans le temps après ces événements majeurs qui se sont produits. C'est important qu'on voit le contexte, qu'on voit où on est. Et quelle était la situation à ce moment-là, dans l'Église, et dans la société aussi autour, mais dans l'Église principalement, par rapport à l'Église? C'est que la situation avait beaucoup, beaucoup changé dans la mentalité autour et dans l'Église. Il y avait une toute nouvelle génération qui était apparue. C'est normal, avec autant d'années. Et là, il y avait de nouvelles hérésies qui s'infiltraient dans l'Église. Paul avait averti de ça. Allez à Acte 20. Acte 20. C'est intéressant de réaliser ça parce que, vous savez, Dieu est en dehors du temps, lui. Et quand il décide d'avertir son Église, il peut le faire quelques années d'avance par rapport à ce qui s'en vient. C'est ce qu'on appelle la prophétie. Et dans ce cas-là, il l'a fait aussi par la bouche de l'apôtre Paul, par rapport à ce qui allait être vécu tout de suite après la mort de Paul, mais plus tard, au temps de Jean, et plus tard dans le temps également. Acte 20, versets 29 et 30. C'est Paul qui parle. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, ou après ma mort, des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça arrive encore et ça va arriver encore. Sauf que l'apôtre Paul avait annoncé ça déjà, qu'après son départ, ça allait se passer. Et ça a continué et ça s'est amplifié au temps de l'apôtre Jean, vers la fin des années, entre les années 90 et 98. Et M. Orwin écrit dans son article à ce sujet-là, et là je le donne dans mes mots, l'Église de Rome, qui se disait chrétienne, glissait vers les hérésies et cherchait à mettre l'étiquette juive à la loi pour prétendre que la loi ne devait plus être observée. Ça avait déjà commencé à ce moment-là. Alors ça, ça vous donne le contexte dans lequel l'apôtre Jean a écrit son évangile. Et il y a d'autres éléments aussi du contexte d'alors qui est bon de voir. 1 Corinthiens 1 et le verset 22. Ah, formidable, merci beaucoup. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Alors, Paul a vraiment bien identifié les influences qu'il y avait autour de l'Église à son époque. Et ces influences-là n'ont pas cessé avec la mort de Paul. Là. Ça a continué après ça. Les Grecs ont continué à chercher par la philosophie humaine, par les raisonnements humains, essayer de découvrir la sagesse, si vous voulez. Et les Juifs ont continué à vouloir avoir des signes. Ils demandaient des signes, eux autres. Et quand il leur en a été donné des signes, ils les ont rejetés. On sait l'histoire. Mais ça situe le contexte. Les Juifs voulaient avoir des signes, ils n'étaient pas prêts à accepter ceux qu'ils voyaient, et les Grecs, eux, se fiaient au raisonnement humain. Alors Jean fait ressortir ces deux aspects-là dans son évangile. Et il explique que la vraie sagesse, ce n'est pas la philosophie humaine, ce n'est pas les raisonnements humains. Dieu a donné un esprit dans l'homme pour être capable de décider, choisir, bâtir, créer, penser, réfléchir, analyser. Mais ce n'est pas par ce niveau d'intelligence humaine qu'on peut comprendre les choses de Dieu. Ça prend l'esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Alors, on a beau être un des plus grands cerveaux de la Terre au point de vue de pensée intellectuelle et de développement, de raisonnement sophistiqué, on ne peut jamais arriver à trouver la sagesse spirituelle si on n'a pas l'Esprit de Dieu. Alors, c'est ce que Jean explique dans son évangile de Jean. Il dit la vraie sagesse, ce n'est pas par la philosophie ou par le raisonnement humain. Il dit c'est seulement révélé en Jésus-Christ par la révélation divine et par le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui veulent lui obéir. Alors, Jean défait cette fausse conception que c'est par la pensée humaine qu'on peut découvrir la sagesse, la vraie sagesse. Et après ça, Jean, il dit, les signes que Jésus est bien le Messie sont affichés par Jésus et par lui seul. Le Christ a donné des signes incontournables, comme de quoi il était vraiment le Messie. Et je parle de signes. Je vais vous expliquer tantôt ce que c'est qu'un signe. Ça démontre clairement qui il est. Alors, Jean, dans son évangile, a répondu, autrement dit, aux objections qui venaient de ces deux côtés-là. Les Grecs qui disaient, c'est pas la pensée humaine qu'on peut comprendre. Non, non, c'est pas ça, il faut que ça vienne de Dieu. Et les Juifs qui demandaient des signes, ils disaient, les seuls signes que vous avez, ils sont là, ils vous ont été donnés par le Christ, et seulement par le Christ. Ouvrez vos yeux. C'est ça qu'il leur demande. C'est seulement par le Christ que vous pouvez le savoir. Alors, on va voir quels signes que le Christ a donnés, et des signes incontournables, indéniables, qu'il est bien le Messie, l'envoyé de Dieu, le oint de Dieu, qu'il est Dieu lui-même. Juste avant d'aller voir ces signes-là, juste souligner qu'il y a trois thèmes principaux. Ça se rejoint un peu, là, mais il y a trois thèmes principaux dans l'Évangile de Jean. Premier thème, croire. Premier thème, croire. C'est frappant parce que le mot apparaît 98 fois dans l'Évangile de Jean. Alors, c'est pas un thème secondaire, là. C'est majeur. Ça apparaît 98 fois dans son Évangile. Allez voir dans Jean 20. Jean, chapitre 20. Et le verset 31. Et on va voir ici le but du livre, le but de l'Évangile de Jean. Jean 20 et le verset 31. Regardez ce que Jean dit. « Mais ces choses ont été écrites, ce qu'il vient d'écrire et ce qui est écrit dans son Évangile. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez, voilà le but, que Jésus est le Christ, l'envoyé de Dieu son oint, le Fils de Dieu, donc il est Dieu lui-même aussi. » Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors ça, c'est le but. Dans cette seule petite phrase-là, il y a le plan de Dieu qui est compris, il y a la miséricorde de Dieu, il y a le sacrifice de Christ. Je ne veux pas entrer là-dedans, mais ça résume fortement le plan de Dieu. Et c'est le but du livre de nous donner de croire. Alors Jean explique que Jésus, le Messie, est la seule source de vie et le seul qui peut donner la vie véritable, c'est-à-dire la vie éternelle. Parce que les êtres humains n'ont pas l'immortalité, n'ont pas d'âme immortelle, n'ont pas la vie éternelle. Il faut que ça soit donné par la suite. Alors, Jean l'explique. D'ailleurs, c'est intéressant parce que il y a un des noms du Christ qui dit vraiment qu'il est la vie éternelle. Quand, vous savez, quand Moïse a dit à l'Éternel, à ce moment-là, qui était le Christ de l'Ancien Testament, « Oui, mais je vais aller vers eux autres, mais s'ils me demandent ton nom, je vais dire quoi? » Il dit « Je suis. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui est. Je suis, autrement dit, l'Éternel. » OK? Alors, ça le décrit lui-même, son être. Et dans l'Évangile de Jean, c'est frappant, le chiffre 7, ça indique quelque chose de complet pour Dieu. À 7 reprises, on a le « Je suis » du Christ. Premièrement, « Je suis le pain de vie. » Je suis le pain de vie. Jean 6, 35. Je suis le pain de vie. Deuxièmement, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. 8, 12. Jean 8, verset 12. Je suis la porte des brebis. La porte des brebis. 10, 7. Jean 10, verset 7. Le bon berger. Je suis le bon berger. 10, 11 et 14. Jean 10, versets 11 et 14. La résurrection et la vie. Ailleurs, il dit, je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Après, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. 14, 6. Jean 14, verset 6. Et septièmement, la septième fois où il se présente comme le « Je suis », il dit « Je suis le vrai cèpe ». Jean 15, verset 1. « Je suis le vrai cèpe ». C'est intéressant. Alors, on voit que l'Évangile de Jean, c'est pour nous donner de croire à celui qui est l'être spirituel suprême sous le gouverneur de l'univers. Deuxièmement, le deuxième thème, c'est la vérité. Et moi, j'ai mis ici dans mes notes « la » en caractère majuscule. La vérité. Alors, vous savez, il ne peut pas y avoir deux vérités au sujet d'une chose. Une chose peut ne pas être plein de choses différentes, mais elle ne peut être qu'une chose réelle. Vous savez, ce petit cadran-là ici est gris. Il est gris. Il n'est pas vert. Il n'est pas bleu. Il n'est pas une autre couleur. Ce serait faux. On pourrait se tromper à plusieurs égards de dire qu'il est vert, qu'il est noir, qu'il est un autre rouge. Mais il y a une seule vérité. Il est gris. Voyez-vous? Et c'est la même chose pour la vérité de Dieu. Il y a une seule vérité. Il y a plusieurs erreurs, mais il y a une seule vérité. Et c'est pour ça que l'Évangile de Jean parle de la vérité. Et le mot « vérité » apparaît plus souvent dans l'Évangile de Jean que dans tous les autres auteurs du Nouveau Testament à l'Église. C'est fort. Pourquoi? Parce qu'il frappe sur le clou. La vérité, la vérité. À cause de toutes les fausses idées que je vous disais qui circulaient, là. Les Grecs qui raisonnaient de toutes sortes de façons, les Juifs qui disaient « Non, c'est pas le Messie, c'est pas vrai. » Et ils argumentaient, ça peut pas être ça, il a pas donné les signes qu'on attendait, surtout comme ça, qu'on voulait avoir. Il nous a pas donné le royaume qu'on espérait avoir parce qu'ils voyaient le royaume, eux autres, selon leurs yeux à l'époque. Alors, ils n'avaient rien compris. Alors, l'apôtre Jean, lui, insiste sur la vérité qui est une. Il répète que Jésus est venu révéler la vérité. Alors, trois thèmes principaux. Le premier, croire. Le deuxième, la vérité. Et le troisième, les signes, dont je vais vous parler maintenant. Et l'apôtre Jean a donné des signes précis. Il en a donné sept. Sept signes précis pour décrire les miracles du Christ dans le contexte où certains miracles étaient une preuve directe qu'il est le Messie. Qu'il était le Messie. Et Jean utilise à ce moment-là le mot « signe » plutôt que le mot « miracle ». Parce qu'il y avait une dimension spéciale. C'était pas juste de faire un geste éclatant qui démontrait sa puissance. Il y avait un autre message en arrière et ça exprimait qui il était. Parce qu'un signe va avec l'objet en question. Je vous donne un exemple. La fumée, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Okay. La fumée vient du feu. C'est un signe comme de quoi il y a du feu. Mais ça vient du feu, ça fait partie du feu. Alors, c'est pour ça que Jean a employé le mot « signe » pour sept miracles particuliers, parce que ça venait du Christ comme l'identifiant en tant que Messie. Voyez-vous? C'était pas quelque chose extérieur qui faisait du bien, mais qui n'avait pas une signification plus profonde. Autrement dit, ces signes-là, ou ces miracles-là, c'était directement une manifestation de ce qu'il était, le Christ, et de ce qu'il est, le Christ. Un signe de son autorité en tant que Messie envoyé par Dieu. Premier de ces signes-là, l'eau changée en vin. L'eau changée en vin au nord de Cana, pardon. Et vous trouvez ça dans Jean chapitre 2. On n'ira pas, mais Jean chapitre 2, premier signe, l'eau changée en vin. Et je vais vous dire pourquoi c'est un signe et non simplement un simple miracle, comme je l'ai expliqué. C'est une occasion de réjouissance, les noces, les fêtes, une fête spéciale, et ça risquait à ce moment-là d'être assombri parce qu'il manquait de vin, qui est un élément qui fait partie de la noce. Et ce qui s'est passé par la puissance du Christ qui est intervenu, c'est que là, il y a une substance, l'eau, qui a été transformé, qui a été changé en vin. Vous le savez, ça c'est le fond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un signe que le Christ est le Messie. Pourquoi? Parce que le véritable Messie est la source de la vraie joie, des vraies réjouissances pour l'Israël et pour l'humanité, lorsqu'ils connaîtront le vrai Dieu. Et le Christ est la source de la vraie joie et des vraies réjouissances pour ceux qui sont athées maintenant. Lui seul peut apporter un réel changement. C'est pour ça qu'il a utilisé cet événement-là pour procéder à un changement. Et ce changement-là amène tellement de joie, de réconfort, quand on voit que Dieu peut nous transformer. Comme Dieu a transformé l'apôtre Jean, d'impétueux, de violent qu'il était, en homme très doux, ferme dans la vérité quand même, mais très doux, patient, rempli de bonté envers les autres. L'exemple que je vous ai donné tantôt. Alors, en transformant l'eau en vin, le Christ manifestait qu'il a la puissance, et c'est un signe qu'il est le Messie, qu'il a la puissance de faire ces transformations-là dont tous les êtres humains ont besoin pour un jour faire partie de la famille de Dieu. Et c'était, comme vous verrez, vous pourrez aller voir dans Jean 2, verset 11, à la fin de ce chapitre où on décrit les noces de Cana, c'était là la manifestation de sa gloire, c'était là la manifestation de ce qu'il est. OK? Premier signe. Je continue. Deuxième signe. Deuxième signe, c'est la guérison du fils d'un officier du roi. La guérison du fils d'un officier du roi. Vous allez trouver ça dans Jean 4, versets 43 à 54. Je n'irai pas à tous les versets parce que je veux vraiment faire le tour de mon message. Jean 4, versets 43 à 54. Et là, le Christ guérit cet enfant-là à la demande du Père. Et ça, ça prouve une chose par rapport au fait qu'il était le Messie. Il est le grand guérisseur. C'est par lui seul que nous pouvons être guéris. Et nous l'avons vu ce matin avec un des nôtres pour lequel Dieu est intervenu, qui n'était pas capable de venir à la réunion de sabbat à cause de son problème de santé. Il l'empêchait de fonctionner vraiment, normalement, mais que Dieu a béni de sorte qu'il est avec nous. Il a pu venir comme si rien n'était. Alors, Dieu est un Dieu qui guérit. Et le Christ, en tant que Messie, il est celui qui guérit. Regardez Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53. Versets 3 à 5. On voit ici qu'il est question du Christ. Méprisé et abandonné des hommes, ça a été son cas. Homme de douleur et habitué à la souffrance, il était abandonné par tout le monde. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos maladies. Dans l'original, ce n'est pas le mot souffrance, c'est le mot maladie. Ce sont nos maladies qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Verset 5, surtout. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et regardez bien. Et c'est par ses meurtrissures, par ses blessures physiques, que nous sommes guéris. Voyez-vous? Alors, le deuxième signe prouvant qu'il est le Messie, ça a été de guérir cet enfant-là à distance lorsque l'officier du roi lui a demandé son intervention. C'est qu'à ce moment-là, lui, en tant que Messie, pouvait le faire. Et il l'a fait. Et ça l'identifiait en tant que Messie. Troisième signe. Troisième signe. Jean chapitre 5. Versets 2 à 16. Jean chapitre 5 et le verset 2 à 16. C'est une autre guérison ici, mais qui a une autre portée ou une autre signification. Ici, le Christ guérit un paralytique le jour du sabbat. On lui a reproché d'ailleurs, mais ce n'est pas sur ce point-là que je veux insister. Il y avait un homme paralysé, vous verrez le contexte, qui passait ses journées sur le bord d'une piscine, la piscine de Bethesda. Et il y avait un phénomène spécial à ce moment-là qui se passait, c'est que lorsqu'un ange descendait dans l'eau, l'eau bougeait, et les gens qui étaient autour de la piscine, le premier qui se jetait à l'eau, c'était des gens qui étaient malades, le premier qui se jetait à l'eau était automatiquement guéri. Dieu se manifestait régulièrement à ce moment-là de façon assez spéciale. Mais cet homme-là, lui, était paralysé. Alors, comme il a dit au Christ, il n'y a pas personne qui peut me jeter à l'eau quand l'eau bouge et que c'est le temps d'être guéri. Le Christ lui a demandé, veux-tu être guéri? Et il l'a guéri. Mais le Christ voulait faire ressortir une leçon spéciale par rapport au fait qu'il est le Messie. L'homme était incapable de lui-même de descendre dans la piscine pour être guéri quand un ange agitait l'eau. Ça nous montre que le paralytique, et là je pourrais mettre mon nom, le vôtre, tous ceux avant que Dieu nous appelle et qui travaillent avec nous, il était impotent, il était impuissant. C'est pas par notre force qu'on peut comprendre les choses de Dieu. Ce n'est pas par notre puissance qu'on peut arriver à comprendre. Ça doit nous être donné par Dieu. Seul le Messie peut donner la puissance et la force. Et ça, ça prouve qu'il est le Messie. Cette guérison-là, où il permet à un homme impotent, incapable, d'avoir quand même la guérison. Voyez-vous l'aspect important de l'enseignement qu'il y a dans ce troisième signe que l'apôtre Jean rapporte comme étant un signe du fait que le Christ était bel et bien le Messie. Et ça rejoint le verset préféré de M. Méridith dans Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et si j'arrive à faire quelque chose, je le dis dans mes mots, c'est grâce au Christ qui vit en moi. Et le Christ, c'est à lui qu'on doit demander de combattre nos combats, de nous donner la force, de vaincre nos faiblesses, de croire dans la grâce, dans la connaissance. Parce qu'au point de départ, on est impotent. On est impuissant. Alors ça, c'était le troisième signe. Quatrième signe maintenant du fait que le Christ était bien le Messie. Et vous allez voir toute la signification que ça a. C'est la multiplication des pains et des poissons pour nourrir 5000 personnes. Multiplication des pains et des poissons pour nourrir 5000 personnes. C'est juste un peu plus loin dans la Bible, dans Jean 6. Vous pourrez lire ça au verset 4 à 14. Jean 6, verset 4 à 14. Et ce que je vous donne aujourd'hui, vous allez pouvoir partir de là et peut-être étendre votre étude biblique et aller plus loin dans ces choses-là pour vraiment en tirer le maximum du profit spirituel. Alors, on sait qu'est-ce que le Christ a fait. Ces apôtres ont dit, on ne peut pas nourrir la grande foule qui est là. Et le Christ dit, on ne peut pas les retourner chez eux à l'heure qui est là, ils n'ont pas mangé. Et il y avait un petit bonhomme parmi la foule qui avait 5 pains d'orge, comme vous voyez dans le contexte, puis il y avait 2 poissons. Alors, les disciples ont dit, on ne peut pas nourrir ces milliers de gens-là avec ça. Alors, vous savez ce qui s'est passé? Le Christ a multiplié les pains et les poissons. Ils ont tous mangé à satiété et il en est resté après. Et d'ailleurs, le Christ dit, ne perdez rien, ramassez les morceaux. Et c'est intéressant, depuis que j'ai vu ça, parfois, lorsqu'il reste un petit peu de nourriture à la maison, on prend la peine de la serrer pour la réutiliser. Puis ça me fait penser à ces paroles-là du Christ. Gaspillez pas la bonne nourriture qui peut rester, on va s'en servir pour d'autres choses. Et c'est vrai, et c'est vrai. Dieu a un respect pour les choses qu'il crée. Dieu ne dit pas, je vais créer là, à volonté de la nourriture, jetez-en. Et puis même si ça se détruit, je vais en créer d'autres. Non, non. Il dit, prenez soin de ce que je vous donne. Alors, c'est ce qu'on doit apprendre à faire ici. Mais on voit ici que le Christ a donc multiplié ses 5 pains, ses 2 poissons, tout le monde a mangé, il en est resté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au fait que le Christ est le Messie? C'est que Jésus-Christ est la seule source qui peut assouvir la faim physique et spirituelle. Mais la faim physique aussi. Parce que c'est lui par qui et pour qui le gouverneur de l'univers a créé toute chose. Alors, c'est lui qui permet à la nourriture de pousser dans les champs, qui nous permet d'avoir des choses à manger. Et c'est encore plus vrai sur le plan spirituel. Regardez Jean 6, on va commencer à lire au verset 32. Jean 6, verset 32. Et c'est tout de suite après, je vous fais remarquer, la multiplication des pains et des poissons, que le Christ donne cette leçon-là ici concernant le fait qu'il est le pain de vie. On vient de parler de nourriture, là. On vient de parler du fait qu'il a nourri physiquement 5000 personnes. Et tout de suite après, le Christ en profite pour dire, « Je suis la nourriture spirituelle. Je suis le pain de vie. » Jean 6, verset 32. On va commencer à lire au verset 32. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » La vie vient du Christ. Et ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et celui et celle à la Pâque qui mange le symbole du corps du Christ, le pain sans levain, et qui prend le vin comme celui qui donne la vie, et continue de vouloir marcher dans ses sentiers pour être prêt pour la nouvelle naissance. Et il dit, vous vous en allez vers un monde où vous n'aurez plus jamais faim ni soif. ni physiquement, ni spirituellement. Parce que alors vous connaîtrez toutes choses et alors vous serez des êtres totalement spirituels. C'est fantastique. Ça revient encore au but de l'évangile que je vous ai lu tantôt là, dans le passage de Jean. Alors le quatrième signe, donc, ça représente le fait que le Christ est le Messie, celui qui est le pain de vie. Il n'y a pas d'autre moyen de salut que par lui. Et il n'y a pas d'autre moyen pour avoir la vie éternelle que par le pain de vie, que par le Christ. Et quand on prend la Pâque, c'est parce qu'on a été baptisé, c'est parce qu'on s'est repenti, c'est parce qu'on veut continuer à changer pour lui appartenir. Et à ce moment-là, on est en relation étroite avec lui. On reçoit sa force et notre incapacité à vaincre disparaît. Il nous donne de vaincre. Cinquième signe. Cinquième signe qu'il était bien le Messie, c'est qu'il y a un aveugle de naissance, Jean chapitre 9, il y a un aveugle de naissance qui obtient la vue. Je vous dis qu'il était aveugle de naissance, là. Donc il n'avait jamais vu. Et le Christ lui a donné de voir, comme vous pourrez lire dans Jean chapitre 9. Allez à Ésaïe 49. Ésaïe chapitre 49. Ésaïe, chapitre 49. Vous savez, au point de départ, là, à moins que Dieu n'appelle quelqu'un et n'ouvre son esprit et ne lui donne de comprendre les choses spirituelles, la personne ne peut pas comprendre. Comme chacun de nous étions avant. Et où on risque de retourner si on ne travaille pas avec les choses que Dieu nous donne. Et si on n'est pas en train d'avancer pour plaire à Dieu et changer dans notre vie avec son aide. Mais au point de départ, on ne peut connaître Dieu. C'est juste Dieu qui appelle. Moi, je ne peux pas appeler personne. Il n'y a pas un ministre qui peut appeler quelqu'un. Ni un évangéliste qui peut appeler quelqu'un. Il y a seul Dieu qui appelle quelqu'un. Nous, on peut servir les gens, les aider à faire leur chemin. Mais c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui donne de comprendre. Et si la personne se met en marche pour obéir à Dieu, là, Dieu lui donne davantage de comprendre. Et c'est en croissance comme ça jusqu'au retour de Christ lorsqu'on continue de marcher avec lui. Alors, le fait que le Christ ait donné la vue à quelqu'un qui était aveugle de naissance, l'avait même jamais vu, ça indique que c'est seulement par le Messie que les êtres humains peuvent être guéris de leur aveuglement spirituel. Parce que tous les êtres humains sont aveugles spirituellement. C'est seulement par le Christ, par le Messie. Lui seul, autrement dit, peut donner aux gens de voir spirituellement les choses. Et tant que ce n'est pas donné, même si les gens peuvent être gentils, même si les gens peuvent parler de Dieu et tout ça, ils ne peuvent pas voir les choses de dimension spirituelle. Ésaïe 49, verset 5. Il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur. » Le « il » ici, c'est le gouverneur de l'univers qui parle à son porte-parole. « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis. » Je vous rappelle, c'est le gouverneur de l'univers qui parle à son porte-parole, à celui qui allait devenir son fils plus tard, le Christ. « Je t'établis pour être quoi? La lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Et ça va se faire après le retour de Christ, parce qu'avec son équipe sur lui, le Christ va répandre l'Évangile partout sur la terre. Et regardez, on peut voir encore la preuve du fait que c'est le gouverneur de l'univers qui parlait à son porte-parole à ce moment-là. Regardez le verset 7. « Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise. » On vient de voir qui était méprisé tantôt, celui qui a donné sa vie pour qu'on soit guéri par ses blessures. « À celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, les gens ne l'acceptaient pas. À l'esclave des puissants. Des rois le verront et ils se lèveront, des princes, et ils se prosterneront. » Oh, parce qu'il sera le roi des rois lorsqu'il reviendra. « À cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. » Le gouverneur de l'univers a désigné son porte-parole pour être le Messie, son envoyé, Dieu dans la chair, avec pleine autorité. Et ici, il s'est manifesté de cette façon-là. Et c'est un signe comme de quoi il est le Messie. C'est lui qui donne de voir spirituellement, comme ici, il a donné de voir physiquement. Alors, il est la lumière des nations. Lui seul peut donner aux gens la capacité de voir. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. Et on va lire le verset 14. Ça s'applique aux Juifs et ça s'applique aux Israélites. 2 Corinthiens 3 et le verset 14. Il parle des Juifs de son époque ici, mais ça s'applique, comme je vous dis, aux Israélites, aux descendants d'Israël modernes. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne comprennent pas. Et ce voile ne se lève pas parce que c'est en Jésus-Christ qu'il disparaît. Alors le voile qui garde l'aveuglement sur toutes les nations, sur tous les êtres humains, ici il dit clairement que ce voile-là ne peut être levé qu'en Jésus-Christ. Que par le fait de croire au Christ en tant que Messie, de recevoir son message, de demander de changer et de faire le chemin. C'est en Jésus-Christ que le voile peut être levé. Sans ça, c'est aveuglement. Alors, comprenez-vous pourquoi il a choisi cette approche-là pour donner ce cinquième signe comme de quoi il est le Messie, le seul qui peut lever le voile, parce que c'est en lui que le voile, les ténèbres ou l'aveuglement peut être levé. Sixième signe. Vous connaissez bien le sujet. C'est la résurrection de Lazare. Ça, c'est le sixième signe que Christ a donné comme de quoi il est le Messie. Alors, on a vu ces aspects-là, mais non seulement le Messie est une source de joie et de transformation, comme on a vu au Noël de Cana, non seulement il est une source de guérison, lorsqu'il a guéri le fils de l'officier, non seulement il est une source de force par rapport au paralytique qui n'était pas capable d'aller dans la piscine, non seulement il est une source de nourriture, comme on a vu dans la multiplication des pains, non seulement il est une source de vision pour ceux qui ne voient pas spirituellement, mais là ici, par la résurrection de Lazare, il démontre, et lui seul peut le faire, qu'il est source de vie. Source de vie. C'est puissant. Quand vous mettez toutes ces données-là ensemble, on voit la grandeur de Dieu, on voit la force de l'évangile de Jean. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, et c'est vrai qu'on est réconcilié avec Dieu lorsqu'on accepte le sacrifice de Jésus-Christ, qui paye l'amende pour nos fautes, qu'on se repent, qu'on demande à Dieu pardon, de nous laver de notre vie passée, on est réconcilié avec Dieu. Il dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Personne n'est sauvé maintenant. Il dit, serons-nous sauvés par sa vie? Parce que le salut va venir quand Christ va revenir au moment de la résurrection des morts, tel que c'est expliqué à plusieurs endroits. Serons-nous sauvés de sa vie? Et c'est confirmé au verset 21 du même chapitre, juste l'autre bord de la page, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par qui? Par Jésus-Christ notre Seigneur. Ça confirme encore le verset qu'on vient de voir. C'est lui, le Christ, qui est la source de la vie éternelle. C'est par sa vie que nous pourrons avoir le salut, qui est la vie éternelle. D'être sauvé de la mort éternelle. C'est seulement par le Christ qui est le Messie. Il n'y a pas d'autre chemin. Je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est exactement ça. Ça rejoint encore les « je suis », là. Et ça fait partie de lui, ça. Ça fait partie de lui. Maintenant, le septième et dernier signe, qui n'est pas le moindre, parce qu'en fait, c'est le plus grand. Et je dirais que c'est le plus éclatant. Et ça identifie encore Jésus comme étant le Messie. C'est-à-dire, c'est une preuve que Jésus est le Messie. Allez à Matthieu, chapitre 12. Matthieu, chapitre 12. Et ce signe-là, c'est intéressant parce que Dieu, le Christ, pardon, l'a donné dès le début de son ministère, tout de suite en partant, avant les autres signes. Il a donné le signe majeur dès le début, le plus éclatant, le plus frappant. C'est-à-dire qu'il l'a mentionné, mais c'était en même temps une prophétie qui s'est réalisée par la suite. Du vivant de ceux qui ont entendu ce qu'il disait à ce moment-là. Les chefs religieux lui ont demandé un signe pour valider son autorité. Ils ont dit, donne-nous un signe pour dire que tu es vraiment le Messie de Dieu, pour qu'on croit en toi. Alors, allez voir Matthieu 12. Matthieu 12, verset 38. Matthieu 12, verset 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » OK? Nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Et ça, c'est le principal signe comme de quoi il était le Messie. Et il l'avait annoncé d'avance. Et regardez, il précise ensuite, au verset 40, quel est ce signe? Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. 3 jours et 3 nuits. Les Juifs ont rejeté cette chose-là, même s'ils le savaient. Même s'ils le savaient. Regardez Matthieu 27, verset 63, juste un peu plus loin. Ils avaient été avertis. C'est pour ça qu'il y a des responsabilités beaucoup plus grandes sur leurs épaules. Matthieu 27. Et commençons au verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, était un vendredi, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, en parlant du Christ, a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que les disciples ne viennent pas dérober le corps et dire ensuite, « Il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Alors Pilate leur a permis de faire ça, comme on sait, et ils l'ont fait. Et quand le Christ a été ressuscité, vous savez ce qu'ils ont fait par les textes, je ne me rapporterai pas, mais quand ils n'ont plus trouvé le Christ dans le sépulcre, qui avait été dûment gardé par des militaires armés à l'entrée, en plus de la grosse pierre qui avait été roulée là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renié la réalité et la vérité en prenant des sommes d'argent énormes et en les donnant aux soldats et en leur ordonnant de dire que les apôtres étaient venus chercher son corps. Il n'était pas ressuscité. Et la Bible dit que ce mensonge s'est répandu jusqu'à aujourd'hui dans l'humanité. C'est vrai. C'est vrai. Ils ont refusé. Ils se sont détournés complètement de lui. Mais le Christ avait donné ce signe-là de sa divinité et du fait qu'il était le Messie, qu'il allait être 3 jours et 3 nuits dans le sépulcre. Et d'autres grandes religions ont prétendu que le Christ est mort un vendredi et est ressuscité un dimanche matin. Alors que c'est impossible d'entrer 3 jours et 3 nuits, 3 fois 24 heures, de vendredi après-midi, selon eux, à dimanche matin. Encore une autre fausseté, encore une autre erreur qui s'est répandue, semblable à celle des Juifs de l'époque, mais qui a fait les dommages qu'on connaît aujourd'hui, mais qui est une fausseté répandue. Alors le Christ avait donné ce signe-là comme signe principal, comme de quoi il était bien et qu'il est le Messie. Mais vous, l'évangile de Jean, c'est très puissant. Quand on l'analyse de cette façon-là, et j'ai aimé l'article de M. Orwin là-dessus, parce que ça nous aide à entrer dans la pensée de Jean et voir pourquoi il a écrit ces choses-là, pourquoi il a insisté sur certains points, comme le fait de croire, comme le fait la vérité est si importante, la vérité, la seule vérité, et qu'il a parlé de certains miracles comme étant des signes du fait que le Christ était vraiment le Messie. Et le mot utilisé en grec clarifie la chose, c'est Simeon, S-I-M-E-O-N. Et ça veut dire vraiment un signe qui fait partie de l'être ou qui fait partie de la chose elle-même, comme il l'a dit tantôt. Alors, l'évangile de Jean, il est vraiment puissant, c'est inspirant. Et il atteint son but pour ceux qui cherchent vraiment Dieu de tout leur cœur et qui veulent lui plaire, qui veulent lui appartenir, qui veulent être là debout au retour de Christ. Très bientôt. L'évangile de Jean est un immense encouragement. Et je reviens à ce que Jean a écrit dans Jean 20, verset 31, le but pour lequel il a écrit son évangile. Je pense que ça vaut la peine qu'on retourne. Et vous allez voir avec ce que nous venons d'analyser que Son but, il est atteint. Il peut être atteint par ceux qui cherchent vraiment Dieu. Jean 20, verset 31. Pourquoi Jean a écrit cet évangile? Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Et il vous sera fait selon votre foi, hein, afin que vous croyiez. Et Dieu nous donne tout ce qu'il faut à ceux qu'il appelle pour que nous croyions. Et ce que nous croyons vient de la parole vient de ce qui est écrit. Et c'est pour ça qu'il faut chaque jour, nous nourrir de cette parole écrite, qu'on n'aura jamais fini, il ne faut jamais sauter une journée. Il faut continuer à se nourrir de cette parole-là pour être fortifié. Il dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Et pour m'aider à croire, si elles ont été écrites pour m'aider à croire, il faut que je les lise. Mais pas seulement une fois, il faut que je les relise, que je les relie avec d'autres lectures que j'aurais faites, d'autres expériences que Dieu m'aura donné de vivre. Et là, ma connaissance va s'approfondir et je vais me fortifier dans la démarche avec mon Dieu. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. On a vu tantôt que c'est par personne d'autre qu'on peut avoir la vie éternelle. Et ça, c'est le corridor vers lequel, dans lequel on est orienté pour aller vers le monde à venir, vers la vie éternelle. Et j'ai pensé qu'il n'y avait pas de meilleur moyen de terminer ce message aujourd'hui en rapportant les paroles de M. Orwin quand il termine son article. J'ai trouvé qu'il y avait des pensées profondes qui nous aident beaucoup dans ce sens-là. Il dit ceci, et je cite, « Cet apôtre âgé, en parlant de Jean, ce dernier témoin oculaire de tous les événements du ministère du Christ, a rendu un dernier témoignage vers la fin du premier siècle, comme j'ai expliqué tantôt. Seuls ceux qui prêteraient attention à ce témoignage et qui croiraient le message que Jésus est venu révéler de la part du Père pourraient avoir la vie. Seuls ceux-là pourraient avoir la vie. Jean a montré d'une manière simple qui était réellement Jésus. Qui était réellement Jésus? Le porte-parole du gouverneur de l'univers. Celui qui était dès le commencement avec Dieu et qui est lui-même Dieu. Il était l'agneau de Dieu. Il a donné sa vie. Il est venu ôter les péchés du monde. Il est la lumière du monde, le pain de vie, la vraie vigne, le bon berger. Il est venu rendre témoignage de la vérité. Ses paroles offrent non seulement l'esprit de Dieu et la vie, mais encore, elles sont esprit et vie, et elles le seront toujours. Le même évangile, vous et moi, si on est persévérant et qu'on est debout au retour de Christ et qu'on travaille sous lui pour enseigner les nations, nous allons en parler au monde à ce moment-là, nous allons en parler aux gens, nous allons expliquer les choses que je viens de vous expliquer pour que les gens voient l'histoire, l'historique de ce qui est arrivé et voient la majesté de Dieu et le rôle majeur du Messie dans le plan de Dieu.